Nous sommes sur l'émission Une heure en Palestine qui a lieu donc tous les mercredis de 18 à 19h sur les ondes de Radio Galère. Aujourd'hui, c'est Brigitte, moi-même, donc, qui va animer cette émission, mais avec le concours de Anne, aussi de Palestine 13, qui est absente mais qui a grandement préparé cette émission. Vous pouvez la retrouver, l'émission, lundi prochain entre 11h et midi, toujours sur Radio Galère. Et vous pouvez vous intéresser aux activités de l'association Palestine 13 en allant sur le site. Et vous pouvez nous écrire par courriel à asso.palestine13@gmail.com. Alors, l'émission d'aujourd'hui est évidemment ancrée dans la terrible réalité que vivent actuellement les Palestiniens. Mais elle donne la parole à une militante israélienne, membre de l'ICAD. Alors, qu'est-ce que l'ICAD, ou l'ICAD en anglais, Israeli Committees Against House Demolitions, autrement dit Comité israélien contre la démolition des maisons. Cette association a été créée il y a plus de 20 ans, en 97 je crois, par Jeff Halper. Elle visait à mobiliser, ou elle mobilise, des citoyens israéliens pour la reconstruction de maisons ou de structures vitales palestiniennes après leur destruction par les forces israéliennes. Certes, une telle action peut sembler dérisoire au regard du nombre de destructions, pas seulement récemment, mais même dans le passé. Toutefois, c'est une action qui a eu un impact certain de sensibilisation, tant à l'intérieur d'Israël qu'à l'extérieur. C'est une forme de résistance, de combat non violent, contre une politique violente et destructrice. Jeff Halper sillonne le monde inlassablement, aussi souvent que possible, aux côtés de Palestiniens, et aussi souvent que possible aux côtés de Palestiniens, pour dénoncer cette politique israélienne. L'ICAD œuvre pour une solution politique qui met fin à l'occupation des territoires palestiniens et soutient l'établissement d'un seul État démocratif et inclusif du fleuve à la mer. Alors, nous avons la chance de pouvoir entendre cette voix israélienne à travers un entretien téléphonique qui a été réalisé en anglais avec un membre de l'ICAD, Lindy, et entretien qui est où il y a une traduction simultanée qui est assurée en français par Anne. Et dans cet entretien, Lindy nous décrit la situation actuelle sur le terrain en Cisjordanie et en Israël à partir d'un certain nombre de questions qui lui ont été posées. Nous allons donc commencer à écouter l'entretien pendant un certain nombre de minutes.
Lindy, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'ICAD?
Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je souhaite commencer en affirmant que nous reconnaissons le génocide perpétré par Israël à Gaza, qui s'étend également en Cisjordanie. Nous sommes en deuil et reconnaissons que cette situation épouvantable nuit aux deux peuples. Comme vous venez de le mentionner, l'ICAD signifie le Comité israélien contre les démolitions de maisons. Il a été fondé en 1997 par des militants israéliens pour la paix issus de diverses organisations afin de mettre en lumière la question de démolition des maisons palestiniennes par Israël. Lors de la création de l'État d'Israël en 1948, environ 52 000 maisons palestiniennes ont été systématiquement démolies dans plus de 530 villages, villes et quartiers entiers, entraînant le déplacement de plus de 750 000 Palestiniens. Depuis le début de l'occupation israélienne, en 1967 jusqu'au 7 octobre 2023, Israël a démoli au moins 55 000 maisons supplémentaires en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza. Mais les statistiques sont bien pires aujourd'hui. Le 19 mai de cette année, UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré que 92% des maisons à Gaza avaient été détruites, laissant de plus de 2 millions de résidents sans abri. Je tiens à ajouter que, au cours des 19 derniers mois, les autorités israéliennes ont considérablement augmenté le nombre de démolitions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Notre analyse montre qu'en 2024, 1362 maisons et structures essentielles à la vie ont été démolies, déplaçant 2492 Palestiniens et affectant 50 670 autres personnes par la perte de structures agricoles, de citernes, de panneaux solaires, etc. Israël démolit également les maisons des citoyens palestiniens de l'État d'Israël, principalement dans le Negev ou le Nakab en arabe. Ces démolitions concernent les communautés bédouines palestiniennes qui n'ont jamais été reconnues par l'État d'Israël. Nos statistiques révèlent qu'en moyenne, il y a trois fois plus de démolitions dans le Negev et à l'intérieur de l'État d'Israël que dans les territoires palestiniens occupés. En 2024, il y a eu 4014 démolitions, soit une augmentation de 20% par rapport à 2023. Les statistiques pour 2025 sont encore plus élevées. Je souhaite également souligner le travail de nos militants qui ont résisté lors des démolitions de maisons palestiniennes. Ils se tenaient devant les bulldozers, s'enchaînaient aux maisons pour tenter de prévenir ces démolitions. Bien que nous n'ayons jamais réussi à empêcher une démolition, seulement les retarder, par exemple, à la place de 5 foyers détruits en une journée, il n'y en avait que 2 ou 3. Toutefois, ICAD a remporté un succès en emmenant cette question des démolitions devant la communauté internationale. ICAD a également mis en place un programme de reconstruction de maisons palestiniennes. Les communautés palestiniennes nous invitaient à reconstruire ce qui constituait des actes de résistance politique non violente aux politiques de démolition d'Israël. Cela a démontré qu'il existe des Palestiniens et des Israéliens qui refusent d'être ennemis. L'ICAD a reconstruit 190 maisons. Certes, une goutte dans l'océan, mais en termes de résistance, ces actions sont pleines de sens.
Est-ce que l'ICAD a une quelconque possibilité de faire pression sur le gouvernement israélien en dehors de ces actions militantes?
Malheureusement, ICAD n'a pas influencé le gouvernement israélien. Nos activités sont considérées comme illégales. Notre bureau à Jérusalem a été fermé, notre compte bancaire également. Sur le terrain, ICAD fonctionne comme un mouvement de base, de grassroots. Mais nous avons des groupes de soutien au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne. Notre directeur Jeff Halper a beaucoup voyagé à l'international, exprimant dans de nombreux parlements à travers le monde. Nous avons porté cette question devant l'ONU et l'Union européenne. Nous pensons que la pression sur Israël doit venir de l'extérieur. Il est très difficile pour nous d'influencer même la société israélienne, car elle est maintenue dans une mentalité de victimisation par les gouvernements successifs. Les médias majeurs diffusent des messages qui maintiennent la société dans la peur, pensant que le monde entier est contre elle, qu'on veut la jeter dans la mer. Il est donc très difficile d'atteindre la société israélienne et encore plus le gouvernement.
Lindy, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que ressentent et disent les Palestiniens en Cisjordanie?
Oui, je voudrais dire que les informations partagées aujourd'hui proviennent également d'une récente tournée d'études organisée par ICAD, qui a emmené des internationaux en Israël, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Je peux rapporter que la peur et le contrôle sont des sentiments accablants au sein de la société palestinienne en Cisjordanie. Ils sont essentiels pour maintenir l'occupation et cette sensation d'Israël dominant leur vie. Cette récente tournée a parcouru divers endroits en Cisjordanie. Les participants ont entendu un large éventail d'intervenants et rencontré des personnes ordinaires vivant dans un état constant de peur. Rien dans l'apparence du lieu n'est normal en ce moment. Le sentiment de danger pour les Palestiniens est omniprésent. Il faut également souligner qu'il y a eu une baisse spectaculaire des visiteurs internationaux dans la région, entraînant un chômage élevé dans le tourisme et l'industrie hôtelière, notamment à Bethléem. En général, il y a eu une augmentation stratégique et significative du chômage pour les Palestiniens de Cisjordanie qui travaillent auparavant en Israël. La pauvreté augmente, comme tout le besoin d'aide. Pour la première fois, des Palestiniens ont parlé longuement de cette menace existentielle qui pèse sur eux et d'un grand sentiment de lassitude et de résignation face à l'inaction du monde. Lors de cette tournée, il y a eu une visite au camp de réfugiés d'Aïda. Ce camp est né après 1948, lorsque ces Palestiniens sont devenus réfugiés. Il compte des structures permanentes où 7000 personnes vivent dans une zone très confinée, juste à côté d'un camp militaire israélien, avec un mur de ciment de 8 mètres de haut sur l'une de ses limites. Le mur est couvert de graffitis sur l'occupation et raconte des histoires personnelles sur l'impact de la séparation sur les gens ordinaires. Le camp est sous surveillance constante et l'armée israélienne y entre souvent comme dans d'autres zones de Cisjordanie, pour des entraînements militaires et des raids domiciliaires. Imaginez ce que ressentent les habitants de ce camp, le manque total de vie privée, l'incursion de l'armée israélienne. Cela se passe non seulement à Haïda, mais aussi dans d'autres camps de réfugiés palestiniens, notamment dans le nord de la Cisjordanie, à Jenin, Tulkarem et Naplouse, où à ces derniers mois, plus de 40 000 Palestiniens ont été évacués depuis le début de l'année. C'est parce qu'Israël cherche spécifiquement à écraser la résistance palestinienne à ses politiques, même si selon le droit international, cette résistance est justifiée. Le jour même où ces internationaux étaient à Bethléem, les Israéliens ont largué des tracts dans le camp de réfugiés de Deche. Le tract disait, « Résidents du camp de Deche, soyez vigilants. Comme vous avez déjà remarqué, les camps du nord de la Cisjordanie ont déjà payé le prix lourd à cause des activités terroristes et militantes. Partout où il y a le terrorisme, la vie est atteinte. Les forces de sécurité utiliseront tout moyen possible contre toute tentative ou activité de ce type. Celui qui a été averti n'aura aucune excuse. » Dernière nouvelle, le 20 mai, les autorités israéliennes ont démoli un parc de loisirs avec ses terrains de jeu et une salle de fête à Beit Sahor, une banlieue directement au sud-est de Bethléem. La région de Bethléem n'est pas un lieu sûr. L'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré qu'entre le 7 octobre 2023 et le 9 mai 2025, 930 Palestiniens, dont 196 enfants, ont été tués en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Depuis le début de 2025, il y avait 124 Palestiniens et au moins 23 enfants tués. Ceci est un exemple de la manière sournoise et omniprésente avec laquelle les Israéliens agissent en Cisjordanie. Aujourd'hui, si vous vous déplacez en Cisjordanie, vous trouverez plus de 900 obstacles à la circulation. Les blocs de ciment, les rochers, les monticules de terre qui empêchent accès aux villages, qui isolent les villages, qui bloquent les routes. Il y a les portails jaunes à certains postes de contrôle, les checkpoints. Certains sont de véritables installations frontalières, comme entre deux pays. D'autres ne sont que simples barrières ouvertes ou fermées selon les heures. Tout cela sert à contrôler la population palestinienne. Cela se produit même à Bethléem, cette ville connue des pèlerins pour son histoire biblique, les pèlerinages. En quelques minutes, Bethléem peut être verrouillé et ses habitants transformés en prisonniers à ciel ouvert. Concernant les démolitions, comme je l'ai dit avant, l'enquête se concentre sur ce sujet. La majorité des démolitions actuelles ont lieu en zone C, soit 60% de la Cisjordanie, où se trouvent les communautés agricoles rurales. Même si cette zone est censée faire partie d'un futur État palestinien, selon les accords d'Oslo, c'est là qu'ont été établies les colonies israéliennes. Plus de 850 000 colons israéliens vivent à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Durant le tour, les participants internationaux ont observé les conteneurs installés sur les terres palestiniennes, souvent à côté de fermes palestiniennes. Ces installations sont posées par des colons israéliens qui volent des animaux, allument les incendies, battent les agriculteurs, envahissent les maisons et terrorisent les familles. Arrêtons-nous un instant et imaginons comment ces familles palestiniennes qui ont vécu là depuis les générations, parfois depuis l'époque ottomane, avec des titres de propriété historique, comment ils doivent se sentir. Ces familles sont maintenant agressées par de jeunes colons très idéologisés et souvent religieux, à qui l'on donne carte blanche. Et parfois, l'armée israélienne protège ces colons plutôt que de faire respecter la loi. Nous avons rencontré un rabbin dont l'organisation fournit une présence protectrice à ces communautés agricoles. Il nous a expliqué comment ces bénévoles passent la nuit sur place pour faire face aux colons quand ils arrivent. Souvent, ils attaquent la nuit. Ces bénévoles se faisant parfois battre par ces colons. Les colons agissent la nuit pour ne pas que les Palestiniens puissent dormir. C'est dur. Un des Palestiniens nous a dit, il n'y a plus de plaisir dans la vie, même jusqu'au sommet. Alors les Palestiniens de Cisjordanie vivent sous la terreur constante, l'incertitude, la croissance du chômage, dont de la pauvreté, la répression des manifestations qui sont quasiment impossibles à tenir. À cause de la présence israélienne.
Oui, alors nous allons faire une petite pause musicale avec une chanson de l'auteur Phil Mansour, I Left My Heart in Palestine.
At the checkpoint, you were coming home from work. Our eyes met, we laughed about how the soldiers talk. A smile of quiet dignity in that cage of shame. Determination in your eyes I might never see again. And I left my heart in Palestine. People of no consequence, quietly crying on the bus, staring into the distance as we drove back through the dust. A spirit gently bending, in this hope we trust. Nothing on our skin makes them better than us. And I left my heart in Palestine. Thank you.
I fly to the dust as the setting sun reflected off the dome of the rock. Crackling like a gunshot, a distant call to prayer. Someone praising God and saying we're still here. And I left my heart in Palestine. Upon the wall, standing in its shadow, dreaming of its fall. Our hopes met like thunder, in our arms entwined, cradling the stories of those we leave behind. And I left my heart, and I left my heart. In Palestine, in Palestine, in Palestine.
Alors, quelques mots sur Phil Mansour, l'auteur de cette chanson. J'avoue que je ne le connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. C'est un auteur, compositeur, interprète qui transforme la résistance en musique. Il crée une musique qui ne se contente pas de dire la vérité au pouvoir, mais qui la chante haut et fort. Dans ses chansons, il aborde la guerre, l'occupation, l'exil, les inégalités et les silences à briser. Phil Mansour est un syndicaliste, un militant engagé, soutenant le droit des réfugiés, la cause palestinienne et les mouvements populaires du monde entier. Donc peut-être nous aurons à le réécouter sur nos ondes, parce qu'il correspond tout à fait à ce que nous défendons nous-mêmes. Alors nous allons poursuivre l'interview que nous, avec Indy, donc cette militante israélienne, membre de l'ICAD, ou l'ICAD en anglais.
La vie des Palestiniens qui habitent Jérusalem-Est est-elle différente?
Yes, thank you for that question.
Merci de cette question. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les Palestiniens vivent de manière fragmentée. À Gaza, en diaspora, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. À Jérusalem-Est, ils ont certes plus de liberté de mouvement qu'en Cisjordanie. Leurs voitures ont des plaques israéliennes, alors ils peuvent voyager, se rendre à la mer. Ils peuvent prendre les vols via l'aéroport de Ben Gurion. Ils peuvent étudier dans des écoles et universités israéliennes. Mais à Jérusalem-Est, ils vivent aussi sous les politiques racistes et discriminatoires d'Israël. Nous avons vu cela à ICAD, car presque toutes les demandes de construction ou d'agrandissement de maisons palestiniennes sont refusées, même après avoir suivi tous les processus légaux, le paiement des frais, les avocats, etc. Ils sont toujours refusés. En revanche, les Israéliens reçoivent facilement des permis de construire, même dans les colonies illégales de Jérusalem-Est. Les Palestiniens de Jérusalem-Est, ils sont également dans un état de désespoir. Chacun d'eux a des proches à Gaza. Une grande partie de leur quotidien consiste à tenter de vérifier s'ils sont encore vivants. Ils ne passent pas une journée sans ce souci. Des colons religieux extrémistes et l'armée israélienne traversent régulièrement la vieille ville de Jérusalem. Ils empêchent parfois les Palestiniens d'entrer sur Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées, où se trouve le dôme du rocher et la mosquée al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. Des colons y pénètrent même de force, parfois pour y prier, ce qui est perçu comme une provocation extrême. Prenez l'université hébraïque de Jérusalem, historiquement fréquentée par des étudiants juifs et palestiniens. Depuis le 7 octobre, certains étudiants juifs viennent armés, parfois après avoir servi à Gaza. Alors imaginez un étudiant palestinien assis en classe à côté d'un étudiant armé ayant combattu à Gaza.
Just been serving in Gaza, and here they are in the same classroom carrying guns. So it's a very, very severe intimidation.
C'est une situation d'intimidation permanente. Certains Palestiniens n'osent plus parler arabe ni révéler leur identité. Ils vivent dans un état de traumatisme constant. Le monde a besoin de savoir ceci. Il ne s'agit pas de stress post-traumatique, mais de traumatisme permanent. Des associations essaient d'apporter un soutien psychologique, mais elles sont débordées. Ceux qui conduisent les programmes d'aide sont confrontés à des humiliations journalières au checkpoint. Et parfois, elles ont même besoin elles-mêmes de thérapie. Ils ne connaissent pas leur avenir. Ils manquent de logement. Les conditions de vie sont exiguës. Les services et les infrastructures ne sont pas équivalents à ceux des Juifs de Jérusalem-Ouest. Il suffit de quelques minutes à pied pour passer d'un quartier palestinien à un quartier juif, et c'est comme passer d'un pays du tiers-monde à un pays développé. Récemment, Israël a fermé des écoles de l'UNRWA qui scolarisent 800 enfants. Il y a aussi de graves problèmes de délinquance et de toxicomanie dans Jérusalem-Est.
Et qu'en est-il des Palestiniens qui sont citoyens d'Israël?
Yes, thanks.
Oui, merci. Ce sont l'un des cinq groupes de Palestiniens. ICAD suit de près ce qu'ils vivent. Lors de notre tournée récente, nous avons rencontré des citoyens palestiniens d'Israël ainsi que les Israéliens. Beaucoup de gens oublient ou ignorent qu'environ 20% de la population israélienne est palestinienne. Certains vivent dans le Negev, le Nakab, d'autres dans la Galilée. Il y a des villes mixtes comme Jaffa, Lod, Haïfa. La plus grande ville palestinienne d'Israël est Nazareth, dans la Galilée.
citizens of Israel live under Israel's discrimination and apartheid.
Ces citoyens palestiniens vivent sous des politiques discriminatoires et d'apartheid d'Israël. Ils sont documentés par Amnesty International, Human Rights Watch.
Now, since October the 7th,
et B'Tselem, qui est une ONG israélienne. Depuis le 7 octobre, ces organisations sont visées directement également. Des commentaires sur Gaza, sur les réseaux sociaux, peuvent entraîner des arrestations sous prétexte de soutien au Hamas. Ils peuvent être les personnes dans le deuil seulement, mais ils peuvent être arrêtés. Les étudiants peuvent être expulsés des universités, des professeurs et les employés ont été licenciés. Cette peur les pousse à se replier sur eux-mêmes, à éviter de s'exprimer publiquement. Un autre exemple est que dans la profession médicale, au moins 30% d'entre eux, ce sont des Palestiniens. Ce sont donc les citoyens palestiniens d'Israël, hautement qualifiés dans les hôpitaux. On peut les trouver travaillant ensemble, fournissant ces soins experts pour lesquels les hôpitaux israéliens sont bien connus. Mais maintenant, depuis le 7 octobre, par exemple, pendant leur pause déjeuner, ils s'assoient à des tables séparées. Il y a beaucoup d'autres organisations qui avaient des Juifs et des Palestiniens dans l'organisation. Il y a eu des organisations qui ont mis en place au fil des années des collaborations. Donc, que ce soit sur une base professionnelle ou pour d'autres organisations davantage centrées sur la justice sociale ou les questions de genre, qui ont réuni les deux groupes et des amitiés se sont formées, mais certains se sont complètement arrêtés. Il y a une distanciation parce que, bien sûr, les Juifs israéliens sont en deuil de leurs amis et familles qui ont été affectés par le 7 octobre. Et puis, vous avez les Palestiniens qui pleurent ce qui est arrivé à leurs amis et leurs familles. Donc, la division grandit. Et quelque chose d'autre que je veux mentionner à propos des communautés palestiniennes à l'intérieur de l'État d'Israël, c'est que les services pour eux, comme je l'ai dit, sont différents de ce qui se passe dans les zones réservées aux Juifs. Et donc, dans les communautés palestiniennes, les services ne sont pas les mêmes. Et cela a conduit à une augmentation des taux de criminalité maintenant. Donc, il n'y a pas assez de police fournie pour ces zones. La criminalité augmente à cause de la pauvreté croissante, du chômage, du manque de services sociaux, et cela met les Palestiniens dans une situation très effrayante au sein de leur communauté. D'accord, cela dit, il y a encore certains Palestiniens et Israéliens qui se réunissent, disons, pour certaines manifestations à Tel Aviv. Ils demandent que les otages soient libérés et ramenés chez eux. Vous savez, et pour la fin, ils appellent à la fin des bombardements d'Israël sur Gaza. Ils veulent que cela cesse.
Croient-ils encore à la justice?
Donc, oui, il y a ceux qui croient en la justice. Et je dois dire qu'il y a des Israéliens de gauche qui essaie de tendre la main à leurs compatriotes juifs pour les éduquer à propos de l'occupation. J'ai mentionné plus tôt comment, au fil des années, le gouvernement israélien a vraiment contrôlé les nouvelles, les actualités, les messages envoyés à la population juive pour les maintenir dans cette mentalité de victimisation. Maintenant, nous avons des Israéliens, disons, de gauche qui essaient de les atteindre, qui essaient de les éduquer, qui essaient de leur faire voir toute cette folie doit cesser. Ce n'est pas bon pour aucune des deux populations de continuer comme ça. Mais c'est un processus lent, c'est un processus difficile. Et quand il y a des sentiments si profonds, des émotions si profondes, donc il y a beaucoup de complexité dans toute cette situation. Et je suppose que c'est certaines de ces complexités, une partie de cette grande injustice que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui. Et pourquoi? Oui, pourquoi les Palestiniens ont faim de justice? Ils ont faim. Ils ont un droit de vivre dans la dignité et dans la liberté.
Alors, nous allons faire une courte respiration musicale avec Sharek Dahad.
بمحب شمس الجروب وبسمي بوجهك هالحلو نجمة بسما المسجور شعرك أحلو أنعفو بمحب شمس الجرون وبسمي بوجهك هالحلو نجمة بسما المسجور
Alors après cette petite pause musicale, nous allons terminer l'interview de ICAD pour quelques petites minutes encore.
Pouvez-vous présenter la vision que l'ICAD soutient pour l'avenir?
Thank you, yes.
Merci, oui.
What a struggle this is.
Quel combat c'est.
Going back, yes, ICAD being
pour revenir, oui, ICAD étant établi en 1997 a été sur le terrain travaillant pendant de nombreuses années. Et ICAD a toujours regardé la situation dans son ensemble parce qu'il croit que la seule voie à suivre est qu'il y ait une solution juste et durable pour les deux groupes de population, pour les deux peuples. Donc oui, nous avons cherché à avoir un rôle politique. Nous avons cherché à être un acteur politique pour cela. Nous croyons que nous devons parler de ce qui se passe en utilisant la bonne terminologie, parce que ceci n'est pas un conflit. Ce n'est pas entre deux camps égaux. Les Palestiniens n'ont pas d'armée. Ils ne sont pas une superpuissance. Ils ne sont pas une puissance nucléaire. Ils n'ont pas d'État reconnu à l'ONU. Ils sont différents. Ils sont plus petits. Vous ne pouvez pas demander aux Palestiniens de faire plus de compromis comme c'était le cas durant les années d'Oslo. Ils ont accepté la Palestine à 22%. C'est 22% de la Palestine historique. Et vous avez maintenant deux populations, plus de 7 millions d'Israéliens juifs, 7 millions de Palestiniens. Les Palestiniens n'ont plus rien à donner. Et donc, nous, en tant que ICAD, définissons cela comme une situation coloniale de remplacement. Cela signifie que, eh bien, le colonialisme du peuplement, c'est quand un groupe de personnes de l'extérieur viennent pour prendre le contrôle de la terre et pour la peupler avec leur propre population. Donc, dans ce cas, c'est Israël qui est venu avec son objectif de prendre autant de terres de la Palestine historique que possible, avec aussi peu de population indigène restante. Et cela a été accompli à travers la question des démolitions des maisons. C'est du nettoyage ethnique, les déplacer, les détruire. C'est exactement ce qui se passe à Gaza en ce moment, avec l'objectif de déplacer la population, d'éloigner la population, les Gazaouis, de réduire cette population. Et puis nous voyons au fil des années, Israël a fait venir des Juifs d'autres pays pour vraiment remplacer les Palestiniens. Israël lui-même appelle cela la judaïsation, transformer un pays arabe en un pays juif. Donc nous, à ICAD, appelons à la décolonisation pour enlever toutes les structures de domination et de contrôle. Nous appelons à l'établissement d'un État démocratique unique pour toutes les personnes qui vivent entre le fleuve et la mer. Aujourd'hui, nous sommes très, très loin de cela. Les divisions s'accentuent. Nous craignons que les politiques d'apartheid d'Israël ne fassent que s'intensifier, même si un État palestinien est déclaré. Nous regardons ce qui va se passer en juin à New York, quand la France et l'Arabie saoudite rassembleront d'autres pays. Et l'objectif est de pouvoir déclarer un État palestinien. Alors, regardons ce qui se passe. Regardons les détails. Fondamentalement, les gouvernements ont échoué le peuple palestinien dans cette lutte la plus morale de notre temps. Et les seuls vrais amis que les Palestiniens ont, ce sont la société civile. Et heureusement, ce mouvement grandit dans le monde entier. Une mobilisation que nous avons vue comme jamais auparavant. Mais nous sentons simplement que notre lutte doit continuer. Nous devons continuer à nous mobiliser, à pousser nos gouvernements à faire ce qu'il faut. Nous voulons que les Palestiniens nous entendent, où qu'ils vivent, pour savoir qu'ils ne sont pas oubliés ou abandonnés. Et poursuivons cela. Merci.
Bye-bye now.
Au revoir.
Voilà, alors ça a été peut-être un petit peu long, mais il nous a semblé important de donner la voix à une association israélienne antisioniste qui, malgré le contexte répressif, continue d'œuvrer pour documenter les réalités de terrain et maintenir des liens avec les Palestiniens en vue de la construction d'un État démocratique unique. Voilà, donc comme presque pour chaque émission, nous allons terminer par l'agenda de manifestations qui ont lieu dans les prochains jours. Tout d'abord, le 7 juin, donc samedi, à 14h30, sous l'ombrière, des militants de Palestine 13 seront présents sur la Canebière, enfin au bas de la Canebière, pour venir à la rencontre des passants pour discuter autour de la Palestine. Un tract sera distribué. Et vous pouvez tout à fait, si vous avez envie de venir discuter sur cette question de la Palestine et rencontrer les membres de l'association, venir les rejoindre donc à 14h30 ce samedi sous l'ombrière. Le 10 juin, donc c'est mercredi si je ne me trompe pas, à 18h30 au local solidaire au 29 boulevard Longchamp, sera projeté le documentaire « Journaliste en ligne de mire » qui met en avant les témoignages de journalistes de Gaza qui continuent à témoigner alors que plus de 200 d'entre eux ont été tués depuis le 7 octobre. La libre participation aux frais est destinée aux blessés et aux malades de Gaza qui ont été évacués de Gaza vers l'Égypte et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ce ciné-débat est organisé par MACPAL, ATTAC, et soutenu par la LDH, la FSU 13 et naturellement aussi Palestine 13 qui soutient cette initiative. Pour l'avoir personnellement vu, vraiment c'est un documentaire très très émouvant et on se demande comment ces personnes arrivent encore à travailler pour pouvoir témoigner à l'extérieur de ce qui se passe puisque aucun journaliste étranger ne peut rentrer dans la bande de Gaza. Chapeau à eux et vraiment le documentaire en vaut la peine. Dimanche, il faut rappeler comme tous les dimanches qu'il y a à 14h la manifestation à la porte d'Aix. Et puis Philippe de la route du Zaatar nous demande de préciser que le 13 juin, il sera présent dans le cadre du festival Fête le Grand Estac pour tous, avec des photos et des vidéos sur la Palestine. Et puis, j'aimerais encore donner juste deux informations. Le fait que vous avez peut-être entendu parler qu'un nouveau bateau est actuellement en mer pour dénoncer le génocide, mais aussi le blocus de Gaza. Le bateau qui s'appelle le Madeleine, qui est le nom nommé ainsi en hommage à la seule pêcheuse, si on peut dire, de Gaza. Il a pris la mer dimanche dernier de Sicile. Et à bord, en plus de l'équipage, il y a quelques passagers, dont Greta Thunberg, Gourima Hassan. Il y a également un militaire français, Pascal, qui était déjà à bord en 2018, puisque c'est Flottille de la Liberté. Là, il n'y a qu'un bateau, mais il y a des années où il y en a eu plusieurs, existe depuis plus de 10 ans. Et voilà, il y a un médecin français, il y a deux journalistes, etc. Donc, les Israéliens ont déjà signalé que le blocus ne serait pas brisé. Hier soir, le bateau a été survolé par un drone. Et donc, plusieurs associations, dont Palestine 13, essayent de sensibiliser les autorités pour demander la protection des personnes qui sont sur ce bateau, puisqu'on sait que dans une flottille précédente, il y a déjà eu des personnes tuées. Et surtout, il faut faire savoir partout que ces 12 militants de la solidarité internationale avec le peuple palestinien martyrisé ont pris le risque majeur de dire non à l'inacceptable, au génocide, à la complicité des États qui pourraient arrêter l'innommable à Gaza. Et ils les protégeraient en le faisant. Et la dernière information, c'est que vous avez dû entendre parler peut-être aussi qu'il y a une marche mondiale pour Gaza qui se prépare. Il s'agit d'un mouvement citoyen, apolitique, et qui vise à réaffirmer la solidarité mondiale envers la population. Donc, et si possible, d'acheminer de l'aide à travers la frontière de Rafah. Plus de 30 pays, plus de 150 ONG ont déjà rejoint cette initiative que la FPS, donc notre association nationale, soutient. Elle n'a pas vraiment comme objectif d'entrer à Gaza, mais de négocier l'ouverture du terminal de Rafah avec les autorités égyptiennes et les diplomates, les organisations humanitaires pour acheminer cette aide humanitaire. Et donc les participants devraient arriver, enfin partir du Caire le 12 juin et arriver à Rafah vers le 15 juin. Voilà, donc vous pouvez suivre leur activité qui sera certainement relayée dans plusieurs médias. Voilà, cette émission est terminée. Vous pouvez donc la réécouter lundi et sinon mercredi prochain à 18h. Voilà, bonsoir.
Bintisha.